Radio Campus, il est 18h.
Radio Campus est partenaire de l'Université et du Crous de Lille pour la soirée de clôture des journées d'immersion de la vie étudiante. Cette soirée se déroulera le jeudi 19 septembre 2019 à partir de 18h à la gare Saint-Sauveur de Lille. Au programme Batuka Dayoamba, Duriel Germain Levanski, finalistes régionaux du tremplin musique de rue, les fabuleuses Yemaya Labanda et attention Vodou Game. Entrée libre et gratuite, ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur jiv.univ-lille.fr. Venez nombreuses et nombreux.
Oui, elle a dit venez nombreuses et nombreux.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut.
Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous allons vous parler d'assistants personnels. Parlons un peu technologie. Nous aurons aussi quelques dossiers sur le jeu de société. Des albums découvertes qui sont fraîchement emballés, qu'on vient de recevoir à la porte de Radio Campus. On est impatients de les déballer. Enfin, apparemment pas tous. Et je vous propose tout de suite de commencer, hein, sachant que nous sommes sur Radio Campus. Il est 18h01 et bientôt 02. Alors, c'est vrai que la société évolue, la technologie est poussée de plus en plus jusqu'à apporter dans vos domiciles de plus en plus d'intelligence artificielle. On en a parlé longuement lors de la dernière émission. Et c'est vrai que de plus en plus de films, notamment si vous regardez Black Mirror, etc., vous êtes très informés sur qu'est-ce qu'est l'assistant personnel.
Donc personnel. Normalement, c'est un assistant personnel. Sauf voilà, qu'on va percevoir que
c'est personnel de groupe, quoi. Tu vois.
C'est personnel le public. Voilà.
Alors, nous avons plusieurs informations. Alors, à savoir que l'assistant personnel a été majoritairement déployé à la base. Si on repart vraiment sur les roots, sur l'origine de l'assistant personnel, c'était surtout pour allumer les lumières à la base.
Ouais, c'est ce qu'on appelait la base domotique. Ouais. Ah, tu parlais, tu entrais chez toi, tu disais hop, maison ou je sais pas quoi.
Tu pouvais draguer les filles en claquant des mains pour atteindre la lumière, tu vois. Ouais, ça allumer le feu de cheminée sur la télé.
Ça s'appelait du petit personnel avant.
C'est ça, et grâce à l'intelligence artificielle, on a poussé un peu les limites jusqu'à pouvoir parler. Et dire juste le mot de votre assistante personnelle, alors qui sera généralement Alexia, Siri ou bien d'autres, hein, puisque on fera la liste tout à l'heure.
Google et compagnie. On n'ose pas trop les prononcer parce que si quelqu'un écoute la radio, qu'il a son assistant à côté de la radio, ploup, ça va s'activer.
Effectivement, c'est ce qui s'était d'ailleurs passé dans ce Spark.
Exactement.
Ils avaient fait un épisode où Cartman commençait à parler à son Alexa, et ça a complètement connecté les unités, j'allais dire les devices en anglais. Mais voilà, juste avec le son, les appareils se sont connectés.
Ils commencent à discuter entre eux.
Voilà, donc si aujourd'hui je dis « Ok, Google, commande 5 iPhones ».
Non, ça va.
C'est vrai qu'on a un peu tous regardé notre téléphone d'un coup.
Ah, c'est ça, c'est Alexa, demande à Siri si Google est « Ok ». Et là, pouf, ça va exploser. C'est comme dans Ghostbusters, quand tu croises les effluves, il faut pas, ça explose.
Effectivement.
Autre référence, comme dans Dune, quand tu tires avec un rayon laser sur un bouclier, faut pas le faire.
Ah, attention, ça, c'est de la référence des atomiques de famille. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais ça pose une grande question, c'est comment est-ce que, d'un côté opérateur, on gère ces unités qui permettent d'écouter dans votre maison, puisque, mine de rien, c'est une écoute constante.
Ouais, c'est une mise en veille.
C'est ça, tu poses ton petit boîtier Alexa qui ressemble une cafetière, enfin je sais pas, un bloc noir, tu le poses au milieu, puis c'est ça. Ah, le matin, tu te réveilles, je vais me faire mon chocolat au lait ou mon café au lait. Ah, il manque du lait, Alexa, pense à commander du... Puis hop, directement, t'as ta liste Amazon, t'as du lait, puis en plus, elle sait quel lait tu prends, donc si t'as des allergies, c'est là que l'intelligence artificielle intervient, donc elle prend exactement le lait qu'il faut, elle te le commande, et tu sais quand tu vas le recevoir. Quand elle ne prend pas les devants à l'avance, parce qu'elle a déjà parlé avec le frigo, qui est aussi intelligent, lui, et qui mesure en permanence ce qui va te falloir.
Ça peut être utile, mais ça peut être à double tranchant également.
Oui, parce que quand tu parles, donc il y a un micro qui enregistre toutes ces informations et puis qui n'enregistre pas plus. Parce que même si tu es en train de parler après, quand tu ne parles pas Alexa, tu continues à parler avec ton conjoint, avec tes enfants, avec le chien, je ne sais pas.
Tu as des bruits ambiants, tu as plein de trucs.
Ça continue, tu t'en aperçois pas, mais ça continue à enregistrer derrière. Comme tout appareil qui a un micro, ça enregistre, mais où est-ce que ça va? Ça va chez monsieur Google ou monsieur Amazon?
Alors... La grande question, c'est est-ce qu'il y a un respect de la vie privée dans tout ce process ?
Normalement, puisque quand tu as acheté ton appareil, tu as lu les conditions du général d'utilisation, tu as coché les petites cases et tu as bien lu que Google et Amazon ils s'engagent à ne pas dévoiler.
T'as bien dépassé les 30 pages à lire avant de cliquer dans les 5 secondes qu'elle joue l'appareil.
Il n'y en a aucun d'entre nous qui a lu les.
j'ai pas de ces machins-là chez moi.
Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que. Alors prenons l'exemple de Google, mais ça pourrait très bien être Apple ou autre. Ils ont le droit d'utiliser vos données le temps tant que votre anonymat reste respecté. Ce qui ne veut pas dire que vos données ne seront pas traitées, qu'ils ne pourront pas écouter ce que vous faites ou le divulguer, mais ils n'auront jamais droit de dire « voilà, c'est un telle personne » ou de donner des indices, par exemple s'ils... publier un fichier audio, on pourrait vous reconnaître. Donc, ils n'ont pas le droit de le publier
publiquement. Ils peuvent s'en servir à des fins publicitaires. Effectivement, si dans ta conversation de tous les jours, tu commences à parler de recettes, tu dis, tiens, avec tes amis, tu dis, moi, j'aime bien la choucroute. Il y en a un qui dit, moi, je préfère le cassoulet, je sais pas quoi. Bah, il va l'enregistrer. Puis peut-être que le lendemain, dans les jours suivants, dans tes mails, comme par hasard, tu auras des mails ou avec des recettes de cuisine plus dédiées vers tes orientations, tes goûts à toi. Quoi.
Dans tes recherches web, des pop-up.
À la limite, c'est pas plus mal. C'est intelligent, je veux dire. Mais effectivement, si ça va plus loin et qu'ils utilisent ça pour le vendre à d'autres sociétés, là, ça devient problématique. Ils ont outrepassé leurs droits.
Oui, mais si on vend tes données à une autre société, mais n'indiquant pas que c'est toi, est-ce que ça devient un problème ? Et c'est là que, lorsque vous signez ces politiques de confidentialité, c'est là qu'il commence à avoir un problème. Est-ce que je veux que mes données soient utilisées même si je suis anonyme, ou est-ce que je veux que mes données ne soient pas utilisées du tout ?
On devrait pouvoir faire un choix assez fin et dire dans quelle limite. Le problème, c'est que 90% des utilisateurs ne maîtrisent pas toutes ces technologies, toutes ces informations. Donc, ils laissent faire et puis ils font confiance.
Voilà, je pense qu'il y en a 99%
qui vont... Même ceux qui connaissent, c'est tellement compliqué de faire tous les réglages. Tu dis, oh, allez, fais ce que tu veux, ou pas.
Ouais, et puis même s'ils le permettraient, tu aurais l'ensemble des personnes qui seraient déjà méfiantes envers la technologie, qui mettraient tout de suite, non, je ne veux aucune information de ma part qui serait diffusée.
De toute façon, si tu...
Il y aurait une perte à gagner pour Google et Amazon et compagnie.
Si tu parles à ta table à manger de ton métier, si t'es, je sais pas, tu travailles dans une centrale nucléaire ou un poste sensible comme ça ou dans la sécurité, tu vas pas parler dans la conversation de tous les jours, tu vas pas prendre le risque de dévoiler des informations, tu sais. Enfin,
si tu veux exploser, t'as l'avion, c'est un Boeing machin, tout. What?
C'est ça, normalement, t'es coaché quoi.
Alors, ce qu'on a vu sur plusieurs actualités, c'est que premièrement, l'écoute, puisque que ce soit Apple, Google, etc., vont procéder à une sorte d'écoute passive, vont demander à des gens d'écouter ce que vous avez dit lorsque vous avez dit « Ok, Siri » ou « Ok, Google ».
Il faut bien qu'ils t'écoutent pour qu'à un moment, quand tu dis « Siri, Alexa » ou « Ok, Google », ils se réveillent. Si tu coupais complètement le micro, ça ne servira plus à rien.
Voilà, mais eux vont derrière écouter pour savoir si on a bien répondu à votre demande. Et du coup, quelquefois, vont pouvoir écouter certains échanges que vous ne voulez surtout pas que ça soit entendu, tels que des échanges avec les médecins.
Oui,
ce qui était
confidentiel, oui.
Alors, apparemment, imaginons que vous êtes chez le médecin et que la porte claque, quelquefois, le Siri va s'activer en pensant que vous avez dit « Ok, Siri », du coup, va commencer une écoute, un enregistrement, ne va pas entendre d'ordre, donc va ne faire aucune action, mais ses fichiers audio seront téléchargés et probablement écoutés, ou en tout cas, une une faible chance ou autre. Hein.
Ouais, c'est ça, tu es chez toi, même tu as passé un test, tu as fait un test de sanguin ou je sais pas quoi, et le laboratoire t'appelle chez toi, tu es dans ta cuisine, et tu réponds au téléphone, et à côté de toi, tu peux avoir ton assistant qui écoute ta façon de parler. Quoi.
Sauf que, prenons l'exemple d'Apple, eux font appel à des prestataires.
Ah là, ça devient chaud.
Auxquels ils envoient les fichiers audio, sans préciser qui. Bien sûr, est concerné par ce fichier. Mais du coup, eux tombent sur des ébats sexuels, par exemple. Ouais. Quelquefois, il peut y avoir des violences, des agressions, effectivement, des échanges, comme on l'a dit, avec les médecins. Et là, ça devient assez inquiétant, puisque imaginons que vous êtes témoin, vous êtes dans cette société prestataire, chargé d'écouter ces discussions audio, et vous êtes témoin d'une agression.
C'est délicat.
C'est délicat. Mais de toute façon, ne serait-ce que déjà pour Apple qui avait certifié lors d'une récente affaire que quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans un iPhone restera dans un iPhone.
Non.
Donc pour eux, ils divulgueront jamais rien. Mais ça ne les empêche pas de divulguer à des tiers. Mais pas à la justice.
Alors apparemment, Apple a déjà plus ou moins fait amende honorable en disant « Bon écoutez, oui, effectivement ». On écoute vos fichiers, mais par souci de qualité, afin de mettre à jour notre application, bien sûr.
Bien sûr, c'est vraiment par souci de qualité. Quoi. Comme quand tu appelles un service et que tu as un petit message, en général, au début, cet appel est susceptible d'être écouté pour des raisons, pour vérifier si le service est bien rendu. Mais de toute façon, ça concerne, on a l'impression qu'ils écoutent tout, mais il y a tellement de gens qui ont un appareil comme ça chez eux, il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas, presque autant d'employés que d'utilisateurs chez Apple ou Google. Donc ça représente vraiment un pourcentage très minime.
0,2% des personnes sont écoutées.
Mais par des utilisateurs humains. Mais après, rien ne te dit qu'il y a des logiciels, des machines qui peuvent écouter. On a l'impression d'être dans la série Person of Interest. Ou même dans Black Mirror que tu citais tout à l'heure. Quoi. Tous ces films de science-fiction avec des ordinateurs qui parlent, même K2000, hein, ça me fait marrer. Mais t'as des voitures. Bah, je me demande si elles sont plus intelligentes que K2000 maintenant, les voitures. Quoi. Mais on a l'impression d'être dans la science-fiction maintenant. Quoi.
Je pense qu'on y est et que c'est pas fini. Mais du coup, ce qu'a promis Apple, c'est que tous les enregistrements qui ont été malencontreusement déclenchés, hein, que ça soit par un bruit de porte ou etc., seront automatiquement effacés.
Bien sûr.
Voilà. Mais donc il va falloir tout réécouter.
Ils seront mis à la corbeille. Est-ce que quelqu'un va les récupérer dans la corbeille ?
Est-ce qu'on peut faire clic droit et restaurer ?
Peut-être. Comme Z.
Donc ce qui fait que. Alors, vous pouvez t'écouter au hasard, mais apparemment, il y a des utilisateurs d'iOS, hein, donc pour Siri.
Parce que là, on parlait des gens qui avaient acheté soit un appareil dédié à un assistant personnel, en plus de leur ordinateur.
Donc, ils sont conscients qu'ils vont faire appel à une machine qui va les écouter.
Mais tous les téléphones portables qu'on a, même les ordinateurs, sont tous équipés d'un micro, des fois une caméra, sont tous équipés d'un micro. Donc même les télévisions intelligentes de maintenant peuvent avoir un micro intégré parce que tu peux faire de la conversation dessus, quoi, utiliser Skype et compagnie. Donc tous ces appareils qui sont équipés d'un micro, ben, potentiellement, il y a quelqu'un de l'autre côté qui peut capter le son dont tu parles au jour le jour, sans même que l'appareil ait été fait pour ça. Alors, et là, on ne parle même pas de gens d'un hacker, un de tes voisins qui s'amuserait à utiliser un logiciel pour hacker ton réseau et se connecter chez toi. On parle des sociétés bien... qui ont pignon sur rue.
Alors là, ce qui s'est passé, et c'est pour les utilisateurs d'iOS, alors c'est une équipe qui s'appelle Projet Zero, qui vient de Google, qui ont essayé de pirater l'iOS. C'est une bonne idée quand même.
Des purs fins de qualité.
Et si je piratais mon concurrent? Et qui ont réussi pendant plus de 2 ans à écouter et espionner des conversations en hackant justement, comme tu disais, le micro d'un téléphone ou d'une tablette, et qui ont été capables comme ça pendant 2 ans d'écouter toutes les conversations, ce qui est assez incroyable quand même. Alors le but étonnant, bien sûr, c'était de révéler des failles et de les communiquer. Hein.
Absolument, hein, des pures fins d'amélioration de la qualité.
Mais bon, apparemment, ils ont eu besoin de 2 ans d'écoute active.
C'était pour être sûr. C'était vraiment pour être sûr d'être sûr.
Il leur manquait l'échantillon qui valide l'expérience, tu vois.
Donc voilà, méfiez-vous, hein, tout ce qui est WhatsApp, Telegram, iMessage, Hangouts ou Gmail sont potentiellement touchés à certains bugs qui est...
Oui. Parce que
qu'on appelle les chaînes exploit, ouais.
Quand j'installe pour que ce soit une application sur mon téléphone, moi j'ai un téléphone d'Android, que ça soit un jeu, une application, il y a des souvent il y a des autorisations, c'est-à-dire quand je le prends, si j'utilise j'installe un logiciel de messagerie SMS, il va me demander est-ce que vous accordez l'autorisation à ce logiciel d'explorer vos contacts, d'avoir accès à vos contacts. S'il commence à me demander est-ce que vous lui donnez l'autorisation d'accéder à l'appareil photo, je vais dire c'est louche, mais effectivement comme je peux envoyer des photos avec mes SMS, je dis bah ok, ça peut servir.
Bah,
il peut
de
demander
WhatsApp,
l'autorisation d'accès à d'autres choses.
Déjà, quand tu as certaines applications que tu installes, que ce soit des jeux ou autres, et que bah, justement pour un jeu, parlons-en, et qui te demandent d'être autorisé à avoir accès à tes contacts, à ta position, alors que c'est un jeu style Candy Crush, une connerie, quoi, tu vois, et qui te dit voilà, je voudrais avoir ta position, tes contacts, avoir accès à tes photos,
à la caméra,
etc. Tu veux, mais ouais, tu veux aussi mon numéro de sécu, tu veux, ah ouais, tu veux mon
carte bleue.
Comment ça, c'est pas. C'est pas requis.
Bah quoi.
J'ai installé certains jeux qui m'ont demandé mon numéro de carte bancaire, je ne comprends pas.
Ouais. Et tu vois, par exemple, des jeunes qui prennent le téléphone, qui installent le jeu sur le téléphone de leurs parents.
Ils répondent oui à tout.
Ils répondent oui à tout parce qu'ils veulent jouer et les parents n'ont pas fait gaffe. Et puis, hein, quoi. C'est la vie.
C'est la porte ouverte.
À toutes les fenêtres.
À tous les Windows.
Alors, à savoir que...
On n'a pas cité Windows, mais oui, pour ceux qui ont installé récemment un logiciel Windows sur leur ordinateur, il faut tout de suite aller dans les règles de confidentialité pour désactiver l'accès à la caméra, au micro, etc., 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 etc. Que c'est activé par défaut souvent.
Il y a même pour les gens qui n'ont pas de licence, qui téléchargent des systèmes d'exploitation piratés. Il y a maintenant des versions qui enlèvent directement tous les logiciels espions. Et puisque ce qui s'est passé, c'est lorsque les gens avaient Windows 7, qu'ils l'avaient acheté ou non, à un moment, Windows 10 a proposé une mise à jour qui était gratuite. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, peu importe si tu avais une licence ou non, tu pouvais passer à Windows 10
pendant un certain temps, c'était gratuit. Voilà.
Et récupérer, dans ce cas-là, une vraie licence alors que tu n'en avais pas. Et ce qu'il faut savoir, et ça sera toujours valable sur Internet, il n'y a rien qui est gratuit.
Même dans
c'est le meilleur cas de Google. Hein. J'espère que les codes
seront
là après.
Quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
Voilà. Effectivement.
Il y a toujours quelqu'un qui paye.
Du coup, Windows 10 a blindé, j'ai envie de dire, son système d'exploitation par certains espions qui vont récupérer des données. Bien sûr, mais on ne parlera jamais de vous. Hein. Votre nom n'apparaîtra nulle part.
Il analyse ton comportement, il sait sur quel site tu vas, comme ça il peut revendre ses informations pour faire de la pub.
Lui va le revendre à grande échelle en disant 60% de mes utilisateurs va sur tel site à telle heure. Voilà. Ce qui est extrêmement.
Telle personne aime bien consulter tous les jours les sites de football et de Paris, de football, il va recevoir des mails avec des pubs pour les sociétés de Paris en ligne.
Bon, il faut alors effacer son historique, ça ne sert plus à rien alors. Oups.
Il ne faut pas allumer l'ordinateur.
C'est ce qui s'est passé assez récemment avec l'utilisation des cookies. Ouais. Avant, lorsque vous allez sur un site internet, vous téléchargez un petit fichier qui vous permettait, lors de la prochaine connexion, d'avoir vos données, etc. Et c'est vrai que ça date d'un an, hein, je pense.
Un peu plus,
un ou deux ans, où tout le monde s'inquiète en disant mais attendez, mais vous, il y a des petits fichiers qui contiennent toutes les données des gens et vous faites passer ça par le net. Comment ça se passe? Et du coup, maintenant, lorsque vous accédez à un site internet, c'est pour ça que vous avez toujours maintenant un bandeau qui vous dit vous acceptez-vous les
cookies, en gros,
l'échange de nos données, etc. Quoi. Ce qui ne se passe pas lorsque vous achetez un Alexa ou un OK Google et tout le bazar.
C'est Alexa le cookie déjà de base.
Le cookie, tu viens de l'installer directement dans ta maison. L'espion. Tu installes l'espion volontairement chez toi, donc après, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas acheter d'Alexa, puisqu'on a découvert que ces produits sont tous fabriqués en Asie, etc. Mmh. Et on a découvert que les Alexa, les enceintes d'Amazon, étaient fabriquées, comment dire, dans des usines, sans doute, mais qu'ils employaient des étudiants, lycéens, pour le fabriquer, et de nuit en plus.
Des stages d'école.
Ils ont le droit
pour valider les diplômes.
Les usines chinoises sont autorisées à employer des étudiants âgés de 16 ans ou plus.
Mais. C'est une grande avancée, puisqu'avant, on avait des gamins de 8-9 ans. Maintenant, on est passé au lycéen. Hein. Je pense qu'on avance dans la bonne direction.
Ils étaient employés. Donc, il y a des usines où il y avait plus de 1000. Ils appellent ça des stagiaires. 1000 stagiaires. Oui, on leur apprend leur futur travail.
Ce sont des vrais stagiaires parce qu'ils viennent d'une école où tu as les enseignants et les patrons de l'entreprise qui se... on va dire une coalition envers l'étudiant pour le forcer à travailler plus que prévu. Avant, c'était des stages de travailler en entreprise de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et petit à petit, on force l'étudiant à travailler, par exemple, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Ou alors à faire le travail de nuit, mais pas forcément comme nous, on ferait les 3-8 avec les moments de repos, etc.
Alors, la société s'appelle Foxconn. Et voilà, effectivement, hein, comme tu dis, elle l'offre aux étudiants qui sont tous en âge légal de travailler. Mmh. Attention, hein, grande évolution.
Leur stage de diplôme étudiant. Ouais.
Ils ont donc la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle pratique, une formation en cours d'emploi dans un certain nombre de domaines qui les aideront à trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme.
Et potentiellement, enfin, il leur arrive de travailler 10 heures par jour dans l'usine, en plus des études. Ouais, enfin, bon. C'est fini, les études, tu peux oublier. Ouais. Quoi.
Là, tu avais juste en plus le jeune se révoltait en disant « mais j'en peux plus, je change de stage, quitte à pas avoir mon diplôme. » Et là, tu avais le personnel de l'entreprise qui reprenait contact avec l'enseignant et l'enseignant faisait une lettre au nom de l'étudiant qui le démissionnait. Oh. « Ok, bah, c'est bon, tu as fini ton stage. » Mais comme il n'a pas son stage, il n'a pas de diplôme. Et je te dis, en Chine, c'est comme au Japon. Si t'as pas... Au niveau boulot, c'est pas glauque.
Tu crois?
Ah ouais.
Heureusement, en France, on ne travaille pas.
Voilà, c'est la rentrée.
Alors, Dom veut de la musique. Ouais. Alors, je sais pas si tu fais bien de demander de la musique.
Ah non, ça marche pas.
Puisque Reynald a devant lui un carton avec plusieurs CD qui sont encore emballés.
Non, mais si on les laissait emballer, justement. Voilà.
Et il y en a un tout neuf, qui est encore brillant, qui... Alors, c'est... Tu il sent le neuf, ouais, parce alors que c'est tout vieux à l'intérieur.
C'est méchant, ça.
Je vous propose de déballer... Alors, je t'en prie, vas-y, déballe ce nouvel album de Dave. Les bruitages, c'était bien mieux avant. Hein.
Ouais. C'est pas grave.
Ouais, j'ai que du papier sous la main, je suis désolé.
Avec cet album qui s'appelle « Souviens-toi d'aimer ». Alors c'est
du français, ça?
Tu parles d'un prénom,
c'est ouais. Intéressant.
Ouais, mais venant de Dave, c'est pas grave.
Mais il y a quelqu'un qui connaît un aimé. Je suis pas de grand-père.
Ah, mais oui, c'est un jeu de mots, j'avais pas capté.
Ah. Aimé Jacquet?
Aimé, c'est le prénom, parce qu'on ouais. connaît, les, comment dire, Dave, on sait qu'il préfère les dames.
Il avait fait
de la publicité pour le fromage il y a quelques années et il était sur l'affiche je préfère les dames, mais c'est les dames le fromage parce qu'on sait qu'il préfère les hommes que les dames. Et donc souviens-toi d'aimer A-I-M-E. Pas bête.
Il est malin le Dave. Alors sauf...
Bah, c'est comme la chanson de Charles Trenet, qui avait les mêmes préférences, on s'en rappelle. Et il a une chanson, la voiture, je ne sais plus comment c'est la chanson, mais les paroles c'est « Je t'attendrai à la porte du garage ». Comment c'est qu'il écrit « Je t'attendrai » ?
Bah, vu comme tu l'as prononcé, voilà. André...
Là c'est pareil, souviens-toi d'aimer. Ah, okay, voilà. C'est pas mal.
Ça c'est ce qu'on va entendre partout à la radio. Hein.
Même sur Radio.
Cette chanson qui s'appelle La fille aux deux papas, attention, qui n'est pas pour le mariage sujet homosexuel, d'actualité. Qui est une chanson d'amour. Précisons.
C'est sur l'adoption, ouais, c'est ça.
Non, justement, c'est pas sur l'adoption, c'est juste sur l'amour.
Ouais, c'est ça.
Tu comprends ?
Les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau, est-ce que je regardais là ? C'est la fille aux deux papas, qu'on me dise.
Tout le monde passe à la radio.
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cet album de Dave? Parce qu'il y a, un petit twist.
Ah oui. Il y a une nouvelle qui est liée, parce que il faut de l'argent pour produire un album.
Tu crois?
Ouais. Et il a demandé, enfin, je sais ce qu'il a demandé, il n'a pas mendié auprès de ses petits copains. Oui, à propos de mendier, je viens de découvrir que « Souviens-toi d'aimer », c'est une citation de l'abbé Pierre. Il commence à se poser des questions sur l'abbé Pierre aussi, maintenant, du coup.
Ah,
fait bon.
Peut-être qu'il a une aventure.
Ah, tu crois, c'est ça.
Voilà, on va recevoir des appels d'insultes, maintenant.
Et donc, Dave a demandé de l'aide à son frère jumeau, on va dire, presque, de l'aider à produire. Parce qu'au niveau...
non. Son frère jumeau qui a mal vieilli.
Voilà, mais qui est toujours debout. Renault. Bon, ce pauvre Renault qui est toujours debout. Les photos que je vois de lui récemment, on le voit pas souvent debout. Mais...
Alors, moi qui étais un des premiers à critiquer Renault, voilà, j'ai encore me faire insulter, le téléphone va encore sonner. C'est vrai que Renault est passé dans une très mauvaise passe.
Une de plus.
Et apparemment, il est sobre depuis 9 mois.
Ah, 10 mois.
Ah, 10 mois. Voilà, on voit qu'il y en a un qui tient le compteur. Et pour une des dernières interviews que j'ai pu entendre, c'est vrai qu'il commence à reprendre un petit peu de poil de la bête. Alors de là à refaire un album, puisque l'album a déjà été enregistré, va sortir, alors je pense que c'est fin novembre, fin octobre. Là, j'ai encore des doutes. Mais de là produire un album... Puisque Renaud et Dave ont plus ou moins chanté dans la même période, soyons d'accord.
À 70.
Et je pense qu'ils ne se sont jamais croisés sur une scène.
C'est vrai que c'était pas forcément le même public, du tout.
Et maintenant, ils travaillent main dans la main.
Bon, main tremblante dans la main tremblante.
Ils croisent les bras, et chacun voit la chope de l'autre.
Ils se soutiennent mutuellement pour pas tomber, c'est ça.
Alors du coup, ça c'est la chanson qu'on entend partout.
Il y en a un des deux qui tient encore qui tient encore la route.
Mais nous, on a chopé l'album complet. Alors un numéro au hasard, Reynald.
Zéro.
4.
4. On va écouter l'inventaire.
J'ai rangé mes certitudes et mes costards cintrés. Ça fait quelques mètres cubes de vieilles affaires classées.
Il a toujours un bon dictionnaire de rimes.
Bah écoute, je suis pas fan de Dave, mais je pense que ça fait le boulot pour les gens qui veulent écouter ce genre de musique. Clairement.
Il y a que de la guitare là, non, c'est pas mal. Tous mes souvenirs imbéciles. Un petit peu de mal à monter.
Et pourquoi pas un duo avec Cher et Maître Gims?
On n'arriverait pas à les différencier. Enfin, si Maître Gims, tu le reconnais. Mais tu mets Cher et Dave sur la même scène, je suis pas sûr qu'on les reconnaisse.
Ah si, si, Cher, c'est le monsieur dame qui a les cheveux longs. Et Dave, il a pas les cheveux longs, voilà.
Ah bah, hey, ils auraient pu faire reprendre les chansons d'Abba à eux deux. Elle faisait la brune et lui faisait la blonde.
Ah, pas mal. Ouais, ouais. Alors, il est censé avoir un duo avec Renaud, que Renaud n'a pas voulu publier.
Il faut qu'on mette la main dessus.
Est-ce qu'il faut qu'on écoute toutes les chansons ensemble pour trouver où est le
remix ? Il faut qu'on les écoute à l'envers, il y a un message caché, un message satanique.
Qui nous dira où se trouve le...
Il faut qu'on mette nos meilleurs enquêteurs. Il faut qu'on récupère le duo entre Dave et Renaud. Enfin, d'ailleurs, n'importe quel duo avec Renaud...
J'essaie le dernier regard qui est la dernière piste de l'album « Souviens-toi d'Amé » de Dave. Alors d'ailleurs, j'écoutais certaines interviews de Dave récemment. Il trouve extrêmement impoli lorsqu'on parle lors d'une de ses chansons. Donc s'il chante, il ne faut pas parler. Ah, donc on est actuellement très impoli.
Ah mince, alors faut qu'on s'excuse alors.
Oui.
Ah oh, zut.
Elle n'emporte rien.
Ah t'as changé ton son, là j'avais pas remarqué.
Oui.
Que ce dernier regard. Lors du départ.
La grande question, c'est qu'a fait Renaud sur cet album ?
T'as de ces questions, toi ?
Voilà.
Il a donné tous les sous qu'il a économisés sans acheter de bouteille depuis maintenant pour produire le.
Non.
Bah, si.
Il a juste.
Attends, t'imagines. Voilà. T'imagines la thune qu'il a dû économiser
là-bas ? Il a rapporté les consignes, hop, voilà. Ah, écoute, j'ai un petit magot.
Ok, je prends. Point validé. Très très bonne idée. On va enchaîner et cette fois-ci partons un peu dans le jeu, partons dans l'activité ludique. Et certains d'entre nous ont testé quelques jeux de société récemment. On a aussi quelques petites news. Et c'est vrai qu'on a donné un challenge à Reynald d'expliquer un jeu de société qu'il a testé récemment.
Pas expliquer, et ça devient... présenter. Parce qu'expliquer expliquer à la radio, c'est chaud quand même.
Alors, je te propose de présenter un jeu de société, sachant qu'on y a joué tous les trois.
Absolument. Hein,
et on a tous remarqué que ça serait un peu difficile de rentrer dans le sujet.
Ouais. En fait, l'expliquer,
c'est
complexe parce que bon, C'est pas un jeu d'ambiance, quoi.
Voilà, on te laisse faire la pénétration ludique, je t'en prie.
Alors, voilà, petite présentation de jeu qu'on a testé qui s'appelle Multi Universum. Donc déjà, rien que le nom du jeu est pas trop mal. C'est un petit jeu de Manuel Querreira, qui est aussi l'auteur de Super Hot The Card Game, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, le Super Hot qui était le jeu informatique où tu avais les personnages en rouge et
tu pouvais... Alors lorsque tu t'arrêtais, le temps s'arrêtait également.
Voilà, et tu pouvais super récupérer une arme quand tu bougeais.
Super Hot. Voilà. J'ai compris Super Pot, je sais de quoi il parle.
Et là, et il avait repris ce jeu informatique, il avait mis en jeu de cartes et qui s'appelait Super Pot, The Card Game. Voilà. Donc c'est pas un nouveau sur le marché.
Un jeu polonais.
Tout à fait.
Il y a des très bons éditeurs de jeux en polonais.
Ouais. Il est illustré par Piotr Uzdowski et c'est édité en France par Boom Boom Games, qui est nouveau sur le marché, rien qu'avec le nom déjà.
J'adore.
Voilà. Donc c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, environ une vingtaine d'euros, pour partir 12 ans. C'est ce qui est marqué sur la boîte, je pense que c'est assez clair. Pour l'avoir testé, 12 ans c'est déjà pas trop mal. Voilà.
Et ici on parle d'un jeu de cartes. Qui,
ouais. Ah mais il n'y a que des cartes dans la
qui tient dans une grosse poche.
Une grosse poche.
Grosse, ouais. En fait, tu peux enlever la boîte, tu gardes que les cartes, tu peux les mettre dans la poche, il n'y a pas de souci. Le pitch, pour rentrer un petit peu dans le sujet... On est tous les joueurs sont des scientifiques dans un labo ultra secret travaillant sur une machine à remonter le temps. Malheureusement, lors d'une expérience, ce n'est pas un portail vers le passé qui s'est créé, mais une multitude de portails vers des réalités alternatives. Le souci, c'est que ces réalités alternatives sont assez dangereuses, et maintenant notre but, c'est de les fermer pour sauver le monde.
Ça fait un peu comme dans Oblivion, lorsque tu devais fermer les portails...
Ouais. Ou dans le jeu de cartes sur Cthulhu, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Enfin, donc le jeu est un jeu de cartes, vous avez les cartes où il y a les portails à fermer, les cartes avec des actions, et juste il suffit d'utiliser pendant votre tour 3 actions, une qui vous permettra d'utiliser les cartes comme un outil, vous permettant de...
Fermer des ressources,
des ressources pour fermer un portail.
Les cartes qu'on a en main ont plusieurs utilisations, c'est ça qui est intéressant.
Et aussi la carte, soit pour faire un outil, soit d'utiliser la carte comme une carte action. Mais le twist du jeu, c'est qu'il y a plusieurs positions de portail. Et là où vous vous trouvez, vous avez votre pion joueur, votre carte action va vous donner une action bien définie. Donc si vous vous déplacez sur un autre portail, vous n'allez pas avoir le même action avec la même carte.
Exactement, parce que quand tu vois le jeu, tu dis, c'est simple, les cartes que j'ai en main, je vais là, puis je pose mes outils sur le portail, et puis je le ferme, c'est tout simple. Sauf que c'est un peu compliqué là, parce que...
Tu n'es pas tout seul.
Quand t'es sur le portail A, par exemple, tu peux faire l'action... Le portail 1, tu peux faire l'action numéro 1 de ta carte, mais si tu changes de portail, tu n'auras plus accès à l'action numéro 1, tu auras accès à l'action numéro 2. Donc il faut bien préparer tes mouvements, etc. Sachant que les autres joueurs... Ah oui, parce qu'on a l'impression qu'on essaie tous, qu'on travaille tous ensemble. Mais non, on est chacun pour soi, il y en a qu'un qui... Donc on essaie tous, parfois, de fermer le même portail.
Ouais. Mais le souci, c'est que quand tu fermes un portail, tu le fermes pour toi, tu le gardes, tu le mets de ton côté. Ça te fera des points de victoire à la fin du jeu. Et donc le but du jeu, c'est de regarder ce que fait tout le monde.
Exactement.
Mais en même temps, pouvoir préparer et organiser son tour de jeu. Donc c'est pas évident, parce que pas mal de monde va aller fermer le portail qui t'intéresse pour toi.
Exactement.
Alors que ça fait 3 heures que t'es sur la carte à attendre pour le prendre.
Ça sent le vécu.
C'est ça qui est bien, c'est qu'au début, tu dis, c'est simple, un peu tout le monde prépare ses outils, puis hop, tu vas sur le portail, tu le fermes et tu passes au portail suivant. Ouais. Et chacun fait ça de son côté. Mais quand t'approches de la fin de la partie, la partie qui s'arrête quand on est épuisé sur
certaines piles de portails,
et ben là tu commences à plus regarder ce que toi tu dois faire, mais tu commences à regarder ce que les autres lui il a peut-être envie de fermer ce portail là, donc au lieu de fermer un portail pour moi, je vais aller l'empêcher de fermer le sien ou de mettre un petit peu de chaos.
Surtout que comme je disais au début, tu n'as qu'à ton tour de jeu, tu as que 3 actions possibles à faire, et les actions c'est par exemple te déplacer, c'est une action, prendre une carte et la mettre en tant qu'outil, c'est une action, donc il faut savoir programmer son jeu pour que, en faisant tes 3 actions, t'optimises au mieux ton tour pour gagner du temps, pour pas que les autres joueurs aient à leur tour assez de temps pour venir te piquer ton portail.
La première partie, tu fais pas des bêtises, mais tu fais des choses, tu perds un peu de temps à faire des choses. Et la deuxième partie, tu t'aperçois que tu commences à avoir des petites habitudes et à gagner des raccourcis. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'on a fait 3 parties, c'est ça, ensemble, c'est que à chaque fois, les scores sont très serrés. Ouais. Il y a une partie, on l'a fait hier, on l'a joué à 3. Les scores, c'était 27, 26, 25. C'est super serré et ça, c'est ça qui est, c'est bien.
Et pourtant, on avait un nouveau joueur à la table qui connaissait pas le jeu et il a réussi à s'en sortir correctement. Quoi.
Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a fait une première partie tous les deux et on a joué à 3 ensuite et le jeu est un petit peu différent. À chaque fois. J'ai hâte de tester à 4 et 5.
Voilà, en fait, comme tu peux jouer de 1 à 5, à 5, c'est un cas où tu peux pas prévoir plus de 2 tours avant, c'est impossible.
Alors, comment s'appelle le jeu ?
Multi-Universum.
Universum, c'est peut-être le seul défaut du jeu. Ouais, j'ai envie de l'appeler Multiversum ou Multi-Universum.
Le souci, c'est qu'au début, je tapais Multiversum sur Google Watt pour avoir des infos sur le jeu, mais il te ramène sur un roman, un roman en 3 tomes, d'un roman jeunesse. Donc est-ce que là tu te poses des questions ou...
Donc nous on a joué la version française. Il faut savoir que par avoir la version polonaise, comme il est passé par un Kickstarter, il y a des bonus. Enfin,
En fait, c'est les bonus de l'édition Kickstarter de l'extension. Voilà. Parce que la version française qu'on a dans les boutiques pour une 20aine d'euros, ça correspond au jeu de base, à l'extension et aux 4 cartes. J'ai réussi à le dire, 4 cartes de l'extension quand tu es fourni avec le Kickstarter.
On peut jouer soit en mode normal, soit en mode Cthulhu, quoi,
c'est l'extension
l'univers de Lovecraft, Cthulhu. Avec des cartes et les dessins sur les cartes sont très très bien.
Voilà, c'est pour ça que j'ai donné le nom de l'illustrateur qui est vraiment excellent. Par contre, on parlait de l'émission dernière de l'IA,
l'intelligence artificielle.
Et là, pour ce jeu-là, comme tu peux jouer tout seul, forcément tu ne vas pas jouer tout seul parce que dans ces cas-là tu fermes tous les portails, tu as gagné. Il te rajoute un joueur supplémentaire,
un joueur fictif,
mais qui est une fausse IA parce que là c'est programmé et là elle ne va pas prendre des décisions d'elle-même, elle va être programmée. Et son tour de jeu, ça va être juste de piocher des cartes, les mettre en outil et si elle peut fermer un portail, elle le fait. Sinon, elle change de portail.
Autant jouer avec un gamin de 5 ans. Et puis...
voilà. Mais au moins, tu sais que tu as un challenge, tu sais que ça ressemble plus à un jeu casse-tête. Plus un jeu casse-tête. Que un jeu avec un vrai joueur.
Tu essaies de mettre plusieurs IA alors peut-être.
Ça peut être un bordel sans nom.
tu viens de soulever un point qui tout d'un coup me donne une idée. Est-ce que les premières IA n'auraient pas été justement poussées et vraiment travaillées sur les jeux vidéo justement?
Comme beaucoup de développement, d'innovation en matière d'informatique, de nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui viennent du jeu vidéo. C'est un petit peu. Parce que la Formule 1 était la voiture, les innovations de sécurité ou même technologique de performance des voitures que tu as maintenant croisées dans la rue, elles ont toutes été inventées pour le sport automobile, pas seulement la Formule 1, mais le turbo, les protections, etc. Le jeu vidéo, ça joue un petit peu le même effet au niveau des innovations informatiques et technologiques, on va dire.
C'est vrai, de travailler une intelligence artificielle sur un jeu vidéo, c'est assez compliqué, quoi, mine de rien.
Mais ce qui est pas mal, c'est dont on vient de parler, c'est que maintenant, tu as les game designers de jeux de société, les créateurs de jeux de société qui travaillent sur l'ergonomie et compagnie, qui vont aussi maintenant donner des cours pour les étudiants en jeux vidéo pour leur apprendre des choses. Parce qu'on a développé aussi des choses au niveau du jeu de société qui font il faut que le plateau soit ergonomique, il faut que le joueur puisse comprendre des choses très rapidement, il faut qu'il ne soit pas embêté à réfléchir à ce qui se passe sur le plateau pour pouvoir prendre ses propres décisions pendant sa partie. En fait, ce sont les mêmes problématiques qu'un jeu vidéo avec son écran et que le joueur ne soit pas embêté avec ce qu'il voit à l'écran et qu'il puisse avoir une expérience ludique exceptionnelle.
Non, mais je confirme, je sais que dans certaines écoles de jeux vidéo, les premières années vont commencer par jouer aux jeux de société, avec forcément du Lovecraft, ou des jeux qui vont vraiment poser une ambiance et qui vont permettre aux gens de comprendre, voici les mécaniques de jeu et voici les styles d'univers qui sont possibles qu'on peut appliquer par rapport à ces mécaniques.
Ouais, faire la différence entre la mécanique et le thème. Et quelle branche tu pars?
Alors Dominique, toi tu étais récemment faire un petit tour dans nos presses locales et c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup.
Oui, parce que le jeu dont on vient de parler, Multi-Universum, on peut le trouver. Alors on ne va pas le trouver, il faut le trouver dans les magasins spécialisés, je pense dans les magasins de jeux et jouets et dans les boutiques spécialisées en jeux. Mais si vous voulez commencer, alors c'est ce qu'on appelle un hobby, c'est le jeu de figurines et notamment un univers très 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 connu, l'univers développé par Games Workshop, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Si vous allez chez votre marchand de journaux, vous découvrirez peut-être, vous connaissez tous les collections Hachette, il y a les pubs à la radio, le premier numéro est pas cher, là par exemple le premier numéro ça coûte 2 euros. Et dans ce premier numéro, donc c'est une espèce de grand livret, hop, je l'ai ramené à la radio.
On l'a en direct.
On a.
Dom a craqué sa bourse.
Enfin, 2 euros. Et dans ce sachet, tu as donc c'est Warhammer 40 000 Conquest. Tu as des figurines à découper et à monter. Donc tu as 3 figurines de Space Marines. Tu as aussi 3 pots de peinture et un magnifique pinceau, ouais. C'est bien pour débuter. Donc si tu ne connais absolument rien au jeu de figurines, ou si tu as toujours envie d'y lancer, ou tu as peur du côté peinture, etc., eh ben, pour 2 euros, tu as 3 pots de peinture, ce qui valent chacun normalement à peu près 2 euros au moins dans un magasin, et des figurines montées, plus tu as un magnifique poster d'un Space Marine.
Space Marine qui valent au moins 50 euros.
Plus un fascicule. Oui, c'est ça, les figurines coûtent très cher. Je connais des gens qui en ont acheté plusieurs de ces packs pour avoir les peintures et les figurines. Hein. Ah, tu peux en prendre plusieurs. Ah. Et tu peux donc t'entraîner. Alors, tu découvres l'univers, c'est pas bête, parce qu'il y a des livrets qui te décrivent. Tu peux t'amuser à monter les figurines et à commencer à t'entraîner à la peinture. Il y a des exemples dedans. Et il y a déjà le numéro 2 qui est sorti, qui est un petit peu plus cher, qui coûte 5 euros avec d'autres figurines. Et puis cette fois, il y a des dés et des règles pour jouer. Donc tu peux déjà, si tu as les deux premiers, jouer avec un pote, avec chacun 3 figurines, à faire un petit peu un jeu de guerre. Et il y a d'autres numéros qui vont sortir. Alors, tout ce type de collection achète, où c'est les voitures de collection. Donc là, le premier numéro
les
2
dinosaures.
Euros, tu as les dinosaures, tu as les instruments de musique.
Il y avait les motos, je me souviens.
Les motos, tout ce type de collection achète, il y en a plein chez vos marchands de journaux.
Oui. On a tous acheté les premiers numéros et le reste, on a fait.
Ouais, t'en trouves plein dans les bacs des braderies.
Ben, c'est comme ça, parce que tu peux, et bien sûr, dans le premier numéro, tu as l'offre spéciale, et puis il te dit, bon, plutôt que d'attendre les numéros, tu peux t'abonner tout de suite, tu vas les recevoir directement chez toi. Sauf que les premiers numéros, le premier c'est 2 euros, puis 4 euros, 5 euros, puis ensuite c'est 10 euros par mois, etc. Alors là, en l'occurrence, c'est le jeu qui s'appelle Warhammer 40 000 Conquest. Va directement dans un magasin de hobby, puis achète la boîte. Tu paieras cher, mais au moins tu auras tout le matériel d'entrée. Là, il y a peut-être des choses exclusives, mais je me dis que au moins acheter le premier exemplaire de 2 euros, et tu verras, tu pourras tenter un appart, et tu verras en fonction du résultat si c'est fait pour toi ou pas. C'est un premier pas. Au moins, ça fait des pots de peinture pas chers.
La peinture vaut mieux aller dans des associations, on en a parlé largement.
Et on en reparlera bientôt avec les salons qui arrivent.
Vaut mieux se faire entourer, parce que c'est vrai que le début est assez c'est difficile.
Tu prends ça pour 2 euros, tu vas toquer à la porte d'une assoce, on t'explique la peinture, comment bien monter une figurine.
Tu pourras même tester le jeu, etc. Pour voir si tu vas plus. Parce que Warhammer 40 000, on le sait tous, c'est un budget, puis tu commences à mettre l'argent dedans, et c'est pas évident.
Au début, tu joues avec des potes qui te prêtent leur armée, et puis après, c'est mort. Mm-hmm. Faut que tu achètes la tienne.
On n'a pas fini d'en parler de jeu de stratégie. Et puis, hop, je fais une petite digression hors jeu de société. Quand tu es chez le marchand de journaux, t'en profites pour vérifier s'ils ont reçu le 41e virus informatique. Ouais, enfin, il est sorti. J'ai pas encore le mien, donc. Mais encore bourré d'infos. Toujours 2 euros aussi. Non, alors le kit Warhammer c'est 1,99€ et là c'est 2€. Le prix n'a pas changé depuis 50 ans. Enfin, si, il n'y avait pas encore les euros il y a 50 ans. Mais c'était peut-être 2 francs les premiers numéros. Mais 2€ le virus informatique pour découvrir tous les secrets de l'informatique, tout ce qu'on vous cache. On a fait ici à notre petite échelle de vous dévoiler les secrets. Mais
ce qui est terrible, c'est que si tu regardes la presse, la majorité des livres maintenant sont à 7-8€.
Absolument.
C'est hallucinant, sachant qu'il n'y a pas. Il n'y a quasiment pas de pub dedans, voire zéro.
Pas de pub. Comment, zéro pub. Comment 100% information.
C'est pas pour rien qu'ils font appel à la communauté pour aider le support, parce que 2 euros, je le répète, pour la presse, c'est rien. Sans pub, c'est rien.
Voilà. Donc, vous allez chez votre marchand de journaux, vous prenez votre kit Warhammer 40 000 à 1,99€, vous recherchez le virus informatique. Et s'il n'y est pas, vous allez à la caisse, vous dites vous n'avez pas le virus informatique, vous poussez un petit peu votre marchand de journaux à le commander, à le faire venir. Il y aura peut-être même encore le numéro 40 qui est encore en kiosque, j'en ai vu. Donc, vous l'achetez, vous en achetez plusieurs déjà, et vous les distribuez.
Alors, on parlait d'initiation au wargame pour à peine 2 euros, alors sachant que vous allez vous battre.
Jeu de figurines.
Vous allez vous battre avec 3 pauvres marines.
Ouais, mais c'est déjà pas mal. Tu commences par faire avec une petite escouade. Hein,
Tu récupères des vieux cowboys ou des vieux soldats que tu avais en face, tu les mets en face.
Ça c'est mieux.
Ou des zombies, si
tu en as. Ou tu utilises tes Space Marines pour un autre jeu de rôle parce que tu en as bien besoin. Mais il y a aussi d'autres kits d'initiation, fois-ci appliqués au jeu de rôle.
Alors, toujours pour les petits budgets, parce qu'on a parlé d'un jeu de stratégie, d'un jeu de cartes qui est déjà bien, hein, qui te prend du temps, qui coûte 20€. On a parlé du kit d'initiation en mort qui est à 2€. Et on peut trouver des kits d'initiation pour jeux de rôle, si vous ne connaissez pas, même si vous connaissez, avant d'investir, parce qu'un jeu de rôle, ça peut être ça peut revenir cher. Hein. Il n'y a pas forcément que le livre de base, mais ça peut être quelques dizaines d'euros hein, quand on commence à acheter ou les figurines. Bon, il faut un papier à crayon, ça c'est pas trop cher, tout le monde achète ça.
Le livre de base, c'est 30€, 40€, ça peut aller vite, cher.
Les amis, ça coûte cher aussi.
Il faut des amis, il faut acheter de la bière. Il faut des chips, c'est de la bière et tout ça pour jouer au jeu de rôle. Hein.
Et des fois, c'est pas eux qui les ramènent, alors c'est cher.
Attends, si tu me dis qu'il y a des kits d'initiation gratuites avec de la pizza et de la bière,
moi j'en suis pas mal.
Je signe.
Ça se vendrait. Il faut des dés spéciaux parce que c'est pas toujours des dés 6 qu'on trouve dans notre vieille boîte de Monopoly.
Effectivement.
Ouais. Et oui. Donc, il y a un blog qui a répertorié. Le blog qui s'appelle Point Pix qui a répertorié presque tout. Enfin, oui, tout. Il y en a combien ? Il y en a, j'arrive au bout, je crois, 40, 50, oh là, attends, 66 kits d'initiation au jeu de rôle. Et attention, on peut trouver des kits d'initiation comme ça en boutique où tu payes 10, 15, peut-être 20€ et dedans tu as des vrais livres papier, etc. et des feuilles de perso prétirées, puis des crayons. Des fois, il y a l'idée. Mais là, je parle de jeux de rôle. Alors, c'est des kits qui sont donnés en ligne gratuitement. C'est des kits gratuits, donc il faut télécharger le fichier, c'est au format PDF en général.
Généralement, ouais.
Alors, tu n'es pas obligé de l'imprimer, hein, si tu as une tablette ou même un téléphone, tu peux très bien le laisser sur ton ordinateur ou ta tablette, ou l'imprimer éventuellement, tu l'imprimes
tu imprimes juste, par exemple, les feuilles de perso qui sont généralement au format A5, parce qu'ils en mettent plusieurs par page.
Voilà, si tu veux, tu rassembles des amis, tu leur envoies les fichiers qu'ils ont le droit de lire, hein, ils n'ont pas le droit de tout lire, et je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y en a. Alors dedans, il y a des jeux très connus, tu as du Cthulhu, Dark Heresy, c'est un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 40 000 dont on parlait tout à l'heure. Et ben, avant d'acheter le jeu et le bouquin, etc., pour tester avec tes amis, ou même de le consulter en boutique, tu télécharges le kit, et dedans tu peux lire, tu as une bonne partie des règles, tu as un scénario que tu peux tester avec tes amis. En fait, avec les 66 kits, là, tu peux pratiquement jouer au jeu de rôle jusqu'à la fin de ta vie.
Parce que même avec ce matériel,
si tu as un petit peu d'imagination, tu peux très bien inventer des histoires ou recréer.
Je vois qu'il y a même du Deadlands Reloaded. Deadlands.
C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose.
On connaît Donjons et Dragons, mais il y a du Donjons et Dragons dedans. Il y a même Nains et Jardins.
Oui, j'en ai entendu parler, exactement.
Nains de jardin, donc tu fais des nains de jardin. C'est un petit peu pareil. Tu as du Shadowrun, la dernière édition, la quatrième. Tu as Tiny, c'est un petit jeu de rôle où tu joues des jouets. Enfin, c'est dans l'univers des jouets, donc des peluches, etc.
Tu as même le Warhammer jeu de rôle, mais bon, c'est la V2, mais c'est toujours bien à prendre.
Tu as des jeux de rôle de zombies. Ouais. Tu as Ars Magica, qui est un de mes préférés. Un jeu de rôle où tu interprètes tu joues des magiciens. Tu as 66 kits jeux de rôle gratuits et en français. Ils sont pratiquement tous en français, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est un bon moyen de découvrir le hobby du jeu de rôle avant d'investir. On peut toujours aller en boutique et demander conseil, il n'y a pas de problème, mais là tu peux, c'est vraiment des univers, il y a du manga, il y a de l'horreur, il y a du jeu de rôle, il y a du médiéval fantastique, tout, ouais. Tu peux jouer des choses. Alors je n'ai pas vu s'il y avait du Star Wars dedans, je ne l'ai pas vu, mais il y a d'autres univers dans le même genre.
Star Trek, c'est pas grave.
Star Trek. Ah oui, mais Star Trek avant tout, qui est un jeu de rôle qui a beaucoup de succès. Ouais,
mais c'est surtout pour ça, en même temps, ça te permet toi en tant que soit de tester en tant que joueur et donc de demander à un maître du jeu de lire le truc et de faire un test pour voir si ça te plaît, mais si ça permet à ton groupe potentiel de joueurs de voir quel univers ou quel système de jeu te plaît et d'après embrayer là-dessus. Tu te fais 3-4 parties, donc 3-4 soirs ou 3-4 après-midi avec ces initiations. D'accord. Et après, tu vas en boutique, tu dis voilà, il y a ça qui me plaît au niveau système ou au niveau thématique ou au niveau ambiance. Et après, là, c'est du bonheur en pain.
Tu as une soirée entre amis, le soir, etc. Si tu as des jeux de société, mais tu ne sais pas lequel choisir, ou tu as joué plein de fois, tiens, on va changer un petit peu. Tu télécharges et tu as peut-être en une heure ou deux, tu as le temps de lire le truc.
Généralement, les kits d'initiation, ils te font une fin un peu en porte ouverte ou si c'est un vrai meneur qui est un peu.
C'est des teasers, c'est vraiment des teasers.
Il peut finir la soirée avec le kit d'initiation et puis dire bah voilà, est-ce qu'on continue ou pas, et si c'est le cas, hop, t'achètes le jeu et c'est reparti, quoi.
Généralement, c'est assez bien fait puisque chaque personnage va commencer à potentiellement évoluer. Mais oui, mais si tu veux utiliser ton évolution, va falloir refaire une nouvelle partie.
Ça dépend des kits d'initiation. Il y en a certains, c'est juste je vais dire une bêtise, mais t'es dans une auberge, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Et à la fin de l'initiation, c'est la fin de la nuit dans l'auberge. Voilà, c'est juste pour te montrer le système, l'ambiance, le monde.
Dans un jeu de rôle, il peut s'en passer des trucs dans des auberges.
Ah oui, moi, je vous le dis. Oh oui.
Tu peux très bien faire des aventures complètes sans jamais quitter l'auberge.
C'est ça, c'est lorsque vous êtes maître de jeu, et ceux qui font du jeu de rôle et ceux qui ont créé des parties vont très bien me comprendre. Lorsque vous préparez votre partie, vous dites, bon, ils vont arriver à l'auberge, on va y jouer en 20 minutes. Et puis on va faire 4 heures de combat juste après, sauf que tes joueurs arrivent dans l'auberge et pendant 5 heures, ils se battent pour savoir ce qu'ils vont manger, mais ils se sont embrouillés avec un client, ce qui fait que là où il était censé rien se passer, tu as passé 3 heures.
C'est toujours dans ton bloc-notes où tu écris ton scénar, tu vois que tu n'as fait qu'une ligne sur un sujet, tu veux dire c'est bon, on va survoler ça. C'est là, c'est sur cette ligne-là qu'il faut commencer à faire des recherches, parce que c'est là où les joueurs vont rester.
Alors, cette liste de kits d'initiation, on peut la retrouver sur le blog qui s'appelle .pix, alors P-O-I-N-T-P-I-X tout collé, .blogspot.com. C'est un blog qui est entièrement consacré au jeu de rôle. Et tout en haut, vous avez un petit onglet, les kits d'initiation. Il suffit de cliquer, ça vous emmène sur le site et vous pouvez télécharger les PDF directement.
On partagera bien sûr le lien sur le site, heureusement,
le
blog, en France.
Le blog lui-même est super intéressant, il y a toute l'actualité.
Le lien dans la description.
Il y a régulièrement des jeux de rôle entiers qui sont gratuits.
Voilà, on fait l'appel à vous, n'hésitez pas à cliquer. Heureusement, en France, sur Facebook, on a un site internet, anotherpodcast.fr. On a même un Twitter et un Instagram, attention, c'est la nouveauté. Zéro publication.
Mais ça va venir.
Mais
une publication sur l'Instagram, allez voir.
Bravo.
Celle-là était. On ne pouvait pas ne pas la mettre.
Et on parlait jeux de rôle gratuits. Alors, on vient de parler de kit d'initiation jeux de rôle gratuits, mais on peut aussi trouver. Alors, il y en a sur le blog dont je vous parlais, le point Bix, mais il y a un jeu de rôle qui est sorti il n'y a pas longtemps, enfin, qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui était payant, et qui maintenant est sorti gratuitement. L'éditeur le met gratuitement à disposition. Alors, vous pouvez, bien sûr, si le jeu vous plaît, rétribuer un peu l'auteur. C'est un jeu qui s'appelle Eterne. Et c'est un jeu de rôle qui se passe dans l'Égypte antique, au temps des pharaons.
C'est ça, plongé dans l'antiquité méditerranéenne, avec des personnages qui se retrouveront dans des sortes d'aventures latines, avec plusieurs enquêtes. Alors ça peut être sympa, alors sachant que la version gratuite vous propose les 6 bouquins, c'est
absolument
bien ça.
Il y a plusieurs livres avec les livres de règles, il y a des scénarios, il y a plein de choses sur le fluff, je cherche sur l'ambiance, l'époque,
monde,
voilà, l'époque, le monde de l'époque, toutes les religions, comment on vivait à l'époque, comment vivaient nos personnages et qu'est-ce que vous allez créer comme personnage pour vivre à l'époque de l'Égypte antique.
Ouais, parce que si tu commences ta partie en disant je me lève et je dis Alexa, prépare-moi le café,
ça va pas le faire.
Tu vas pas gagner des points d'expérience pour jeu de rôle.
À l'époque, il y avait sûrement des Alexa, mais c'est sûrement le nom de ton esclave, qui te préparait le café. Non, il y a peut-être pas le café à l'époque de
la bière.
Pour le savoir, il faut aller plonger. Donc, on mettra le lien vers le site pour télécharger les fichiers PDF. Ah oui, on l'imprime pas et on l'envoie pas gratuitement par la poste. Pas encore. Donc là encore, c'est les fichiers PDF. Il faut protéger la planète. Mais c'est un des nombreux exemples de jeux de rôle gratuits qu'on peut trouver. Si on en trouve d'autres, on fera partager les infos.
Je pense qu'il doit en avoir plusieurs.
Ah oui, oui.
Après, dans gratuit, il y a gratuit et...
Ouais, mais là, c'est un peu plus aussi pour faire relancer la boîte. En fait,
c'est
relancer
une
publicité de la boîte. Ouais.
Alors,
ils continuent à sortir des jeux actuels, donc, mais les anciens, voilà.
On parle.
Il ne faut pas aller chez Tokonsuke et Neuroto en disant « Ah ben, vous venez de recevoir le nouveau modèle de voiture, les anciens modèles ne sont pas gratuits. » Non, c'est pas pareil. On ne parle pas de la même chose, là.
Voilà, on parle de jeux de rôle gratuits, mais on parle aussi éventuellement un peu de piratage. Et c'est vrai qu'il y a une chaîne danoise de magasins qui s'appelle Flying Tiger, qui s'est un peu spécialisée et s'est fait très remarquer dans le jeu de société.
Exactement. Parce qu'on parlait de jeux à petit budget, voire gratuits. Il y a plein de jeux connus. Si je vous cite, Double, par exemple, tout le monde connaît ces jeux-là, etc. Eh bien, chez Flying Tigers, tu peux trouver... alors, Double, c'est quoi? C'est le jeu où on retourne des cartes.
Et on a trouvé
et le
symbole.
Premier, voilà. Et quand il y a deux symboles qui se ressemblent, c'est le premier qui attrape le totem au milieu. Voilà,
Double, c'est t'as les cartes avec des symboles dessus et tu as sur chaque carte n'a qu'un symbole unique, identique, c'est ça. Avec une autre carte.
Voilà. Et le premier qui trouve, qui tape,
qui trouve, et tu dis le symbole et tu peux prendre la
et
carte.
Ben c'est bizarre parce que quand tu vas dans les magasins Flying Tigers, tu peux trouver des jeux où tu as des cartes. Le jeu s'appelle, je sais pas, au plus rapide, enfin peu importe le nom du jeu. Et c'est des cartes avec des symboles dessinés dessus. Et la règle du jeu, c'est que chaque joueur retourne à des cartes à tour de rôle. Et quand il y a deux cartes qui se ressemblent, eh ben, il faut attraper un objet qui s'appelle pas un totem, hein, ça s'appelle un sceptre.
Ou bien taper dessus, sur la pile de catch cartes. Me, tu vois, pour être sûr de bien comprendre la règle.
Voilà. Et, ou bien il faut être le premier à taper. Et ça coûte quoi, entre 2 et 5 euros, ce jeu de jeu? Mais c'est bizarre, les auteurs de jeux. Ça me rappelle quelque chose, ce jeu. Et j'ai regardé, à Lille, il y en a deux. Il y en a un qui est à Euralille, et il y en a un qui est rue Escarmoise, le Flying Tigers.
Donc, c'est vrai.
Ils vendent plein de choses, hein. Ils vendent pas que ça, ils vendent plein de choses. C'est des trucs à bas prix, des petits trucs un petit peu design, etc. Faut pas y aller avec vos enfants parce qu'ils vont en voir.
C'est pas cher. C'est entre Ikea et Babou, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est
Action,
du
Babou,
Emma, voilà. Ce genre de magasin, les magasins suédois, etc. Et on peut pas trop rien dire. Alors c'est pas évident, quoi. Il y a des auteurs de jeux qui sont pleins, mais bon, tu peux pas faire grand chose. Et le pire, c'est que, ils le disent pas clairement, quoi. Mais
Il y a que sur un jeu où il est bien marqué dessus, sur le jeu en bois, il est bien marqué Mastermind dessus. Voilà. Parce que mais sinon, c'est une restitution en bois du jeu en plastique.
Il y a la société.
Mais nous, on avait créé un jeu pour trouver les couleurs que l'autre avait choisies.
Exactement. Il y a, par exemple, Yellow, l'éditeur français, a sorti un jeu un jeu en bois, un vrai jeu de Shufflepuck. Je trouve plus le nom. Où tu fais glisser un disque sur le.
Un jeu de palais,
une espèce de jeu de palais en bois où tu déplies. Ah,
tu m'as fait voyager dans un jeu Amiga où je.
Tu vas chez Flying Tiger, c'est t'as un jeu, une espèce de jeu de palais à peu près la même taille et c'est assez bizarre, quoi. Donc n'allez pas acheter, même si c'est beaucoup beaucoup moins cher, n'allez pas acheter.
Voilà, il y a un jeu qui s'appelle le Colki, c'est ça. je vois le concept. Allez, je vous propose d'entamer la fin de cette émission. Hein. Encore, je vous le rappelle, le Facebook de l'émission Heureusement en France, notre site internet anotherpodcast.fr. Et je vous propose de se quitter. Est-ce que vous connaissez ce groupe qui s'appelle Hollywood Vampires?
Oui.
Oh oui.
Alors, qui est illustre notamment pour la collaboration avec Johnny Depp. Qui se lance à la musique
Cooper, entre moi.
Et Alice Cooper, effectivement. Et Alice Cooper qui a donné beaucoup de liberté à Johnny Depp dans ce dernier album de Hollywood Vampire, a décidé de reprendre un peu la main et de refaire un album pour lui. Et c'est ce qu'on va s'écouter. Alors, c'est de l'album découverte, sauf pour une fois, on le mettra en musique de fin. Donc.
Je vais laisser nos auditeurs avec ça.
Parce que, en fait, il dit ça parce que quand il va lancer l'album, nous on va se casser. On va laisser les auditeurs avec et nous on sera partis.
Je ne prends aucune responsabilité quant à l'écoute de cet album. La chanson s'appelle Sister Anne et c'est du Alice Cooper. Allez, on se retrouve la semaine prochaine
pour parler de choses encore plus différentes.
Et oui, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.